Les podcasts du Collège de France.
Bon, donc je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Il doit y avoir un effet magique qui est qu'il y a à peu près exactement le même nombre de personnes dans la salle que de sièges. Ce n'est pas particulièrement calculé, mais ça me touche. Comme vous pouvez le penser, c'est un peu impressionnant pour moi de faire mon premier cours, mon premier vrai cours, devrais-je dire, au collège, puisque le premier était la leçon inaugurale, qui a quand même un caractère un peu particulier. Celui-ci sera plus informel, j'espère. Et donc, il inaugure une série de cours, de 8 cours, dans lesquels j'ai pris comme parti d'essayer de donner, pour la première année, une espèce de vision large du domaine des matériaux et systèmes quantiques dits à forte corrélation. Et il est bien clair que, au fur et à mesure qu'on avancera dans ce cours, on découvrira le sens exact de ce que ça veut dire, ces systèmes fortement corrélés. Donc, le point de vue que j'ai choisi, c'est de donner une perspective large, ce qui veut dire évidemment que les experts d'un sujet ou d'un autre, et j'en ai vu un certain nombre dans la salle, vont forcément être déçus. Ce que je vais dire sera certainement très en dessous, disons, du niveau d'expertise qu'ils pourraient attendre d'un cours spécialisé. Donc le cours de cette année est un cours généraliste qui essaye de couvrir plusieurs sujets. Et ces sujets, en fait, vont depuis la physique de tout petits systèmes avec des fortes répulsions de Coulomb, comme vous le verrez tout à l'heure, ce qu'on appelle des points quantiques, jusque à des matériaux réels, avec toute leur complexité, par exemple des oxydes de métaux de transition, en passant par d'autres types de systèmes dans lesquels on est capable de construire de manière artificielle des solides corrélés en utilisant des atomes froids piégés par la lumière. Donc le but de ce cours de cette année, encore une fois, c'est de vous donner une perspective large sur le domaine. Ce cours va en fait servir de base à ce qui va se passer dans les années suivantes en introduisant un certain nombre de grands concepts, de méthodes auxquelles je pourrais faire référence, la notion de quasi-particules par exemple et leur éventuelle destruction dans ces systèmes à forte corrélation, etc. etc. De manière à ce qu'au cours des années suivantes, on puisse entrer plus en profondeur dans certains sujets particuliers qui sont en prise directe avec l'actualité de la recherche dans le domaine de la physique des systèmes corrélés, et faire référence à ces grands concepts de base pour montrer quand ils s'appliquent et quels sont les systèmes dans lesquels ces concepts prouvent leurs limites. Alors en particulier, je voudrais tout de suite annoncer que le cours de l'année prochaine aura lieu à l'automne, donc en continuité, en quelque sorte immédiate, juste séparée par l'été, avec ce cours-là, et se focalisera sur les cuprates supraconducteurs en essayant de faire un petit peu un état de l'art, où en est-on de notre compréhension de ces systèmes. Il reste encore une place devant. Bon, donc avant d'anticiper sur l'an prochain, qui sera consacré aux cuprates supraconducteurs, je voudrais quand même vous dire un petit peu quel sera le déroulement du cours de cette année. Alors, il y a 8 cours. Et comme vous savez, il est des traditions au collège d'articuler cours et séminaires. C'est-à-dire qu'il y a un cours d'une heure, dans mon cas, ça sera plutôt en général 1h10, parce que j'ai une certaine tendance à déborder, et suivi d'un séminaire, la plupart du temps, par un ou une scientifique invité. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Olivier Parcollet, chercheur à l'IPHT du CEA Saclay, qui va nous parler de méthodes numériques pour les problèmes d'impureté quantique. Et ceci est en connexion directe avec le cours d'aujourd'hui, puisque le cours d'aujourd'hui et le cours de la prochaine fois, celui du 12 mai, sont consacrés aux problèmes d'impureté quantique, et en particulier à l'effet Kondo. D'une part, une présentation, je dirais, théorique du phénomène et des méthodes dont on dispose pour le traiter. Ça, c'est surtout aujourd'hui. Et la prochaine fois, une exposition assez détaillée de différents domaines d'application de ces problèmes d'impureté quantique et de l'effet Kondo. en particulier au problème de la conductance dans un point quantique. Ce cours, la prochaine fois, sera suivi d'un séminaire sur les travaux de recherche qui se sont déroulés, très actifs, qui sont déroulés depuis 10-15 ans, sur la recherche d'effets Kondo non conventionnels, on verra ce que ça veut dire au cours d'eux, dans ces systèmes mésoscopiques et ces nanostructures. Donc, vous voyez, les deux premiers cours sont en fait consacrés à des petits systèmes, on pourrait dire des systèmes de dimension zéro, en étant vague. Alors, bien sûr, on ne va pas en rester là, et pour brosser ce panorama, on va passer à des systèmes étendus. Et comme les systèmes fermioniques, et en particulier les systèmes où il y a des électrons corrélés, sont compliqués, j'ai décidé de consacrer le troisième cours, donc celui du 19 mai, à un problème bosonique, de manière que les choses soient plus simples et qu'on puisse commencer en douceur. Et donc je vais vous parler au troisième cours de transition de mode bosonique dans le cadre d'un modèle simple, qui est celui du modèle de Hubbard bosonique. Mais depuis déjà un certain nombre d'années, on dispose d'une magnifique réalisation expérimentale très contrôlable de ce modèle de Hubbard bosonique, qui est le problème d'atomes froids bosoniques dans un réseau optique. Et je vais vous parler un petit peu d'atomes froids au cours de ce cours numéro 3, là encore de manière nécessairement très superficielle pour les experts, puisque cette année ce sera le seul cours dans lequel je vais entrer un petit peu dans ce domaine des atomes froids. Il y aura d'autres occasions au cours des années suivantes pour entrer beaucoup plus en profondeur dans le domaine. Ce cours sera suivi d'un séminaire de Matthias Treuer, qui est professeur à l'ETH de Zurich, qui est un spécialiste de méthodes numériques et qui va nous parler de comparaisons de haute précision qui ont été faites entre les simulations numériques bosoniques et les expériences sur les atomes froids bosoniques dans les réseaux optiques, en particulier dans le groupe d'Immanuel Bloch. Alors, au quatrième cours, on va finalement arriver aux fermions dans des systèmes étendus. Et là, je vais présenter quelque chose qui est véritablement un pilier conceptuel de la physique des systèmes fermioniques en interaction, qui est la description de liquide de Fermi des excitations de basse énergie de ces systèmes, qu'on appelle les quasi-particules. J'expliquerai ce que c'est qu'une quasi-particule. J'essaierai d'expliquer aussi comment maintenant on peut les voir à travers des expériences de photoémission. Et on aura un séminaire d'Henri Godefrin, qui est à l'Institut Néel à Grenoble et qui, au cours de ces 10-15 dernières années, a fait de magnifiques expériences sur des films d'hélium-3 liquide absorbés à la surface du graphite et ou sur d'autres substrats d'hélium solide. Et il nous expliquera comment ces films donnent lieu à des quasi-particules de Landau avec de très très fortes renormalisations. Alors, les quatre cours suivants sont consacrés plutôt à des matériaux plus complexes qui sont un domaine d'application gigantesque de la physique des fortes corrélations. Et il faudra commencer par un peu de chimie, ou disons de chimie du physicien. Et donc, je consacrerai le cours numéro 5 à une présentation des grandes idées sur la structure électronique et la structure, d'une manière générale, des oxydes de métaux de transition. Des idées très simples, mais ça ne sera pas du tout un cours pour experts, d'ailleurs j'en suis pas capable. Il y aura un séminaire associé au cours du 2 juin qui n'est pas encore fixé, que j'annoncerai un peu plus tard. Le cours du 9 juin continuera sur la physique des oxydes, en se focalisant sur un phénomène qui domine toute la physique des matériaux corrélés, qui est le problème de la localisation de Mott, donc la transition entre un métal et un isolant dû aux interactions électroniques. Et je décrirai une approche très simple, encore une fois, à laquelle il sera fait référence probablement au cours des années suivantes, qui est ce qu'on appelle la description de Brinkmann et Rice de la transition de Mott. On devrait aussi ajouter Hubbard. Sa version, je dirais, moderne, comme on retrouve cette théorie dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie du champ moyen dynamique. Ce cours sera illustré par un séminaire d'Antoine Ménian, qui est un chimiste du Christmas de Caen. En fait, ce séminaire aurait logiquement dû avoir lieu plutôt en correspondance avec le cours du 2 juin, mais il ne pouvait venir que le 9 juin, donc qui nous expliquera comment les chimistes peuvent rechercher des nouvelles propriétés, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles structures dans leur élaboration de nouveaux matériaux. Alors, l'avant-dernier cours sera une sorte de prémisse au cours de l'année prochaine. Ce sera un survol des grands mystères de la physique des cuprates supraconducteurs en essayant de mettre en contraste les propriétés en particulier de l'état normal, mais aussi de l'état supraconducteur de ces matériaux par rapport à ces théories conventionnelles. Et il est bien évident que ce cours servira de prémisse à la suite, puisque c'est là-dessus que j'élaborerai au cours du semestre prochain. Le séminaire associé est un séminaire d'Andrew Millis, qui est à Columbia, qui est actuellement en sabbatique dans notre équipe pour 3 mois, et qui va nous parler de conductivité optique des cuprates. Et puis finalement, le dernier cours ouvrira un petit peu sur des choses qui sont des activités de recherche actuelles dans différents groupes, en particulier dans notre équipe, et qui ne sont pas des problèmes très bien compris, qui est le rôle apparemment très important du couplage de Hund, en particulier dans certains oxydes de méthode de transition de la série 4D. Et pour faire, donc ça, ce sera peut-être des idées plus spéculatives, parce que ce ne sont pas des idées qui ont complètement convergé. Et le séminaire associé est une sorte de miroir de cette question du couplage de Hund. Il y a aussi des oxydes de méthode de transition dans lesquels le couplage spin-orbit joue un rôle très important, en particulier les oxydes de méthode de transition de la série 5D. Et c'est Léon de Balance, qui est également en sabbatique dans notre équipe actuellement, qui va nous parler de l'effet du couplage spin-orbit dans le régime de Mott. Donc voilà un petit peu le menu de ce qui vous attend si vous continuez à suivre cette série de cours dans les semaines qui viennent. Bien, alors maintenant je vais entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je crois que je vais en profiter pour tomber la veste parce qu'il fait vraiment très chaud ici. Un dénominateur commun, et beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette petite animation, un dénominateur commun de la physique de ces systèmes, c'est l'effet de l'interaction de Coulomb. L'effet de l'interaction de Coulomb en elle-même n'induit pas forcément des corrélations électroniques. Des corrélations électroniques, ça veut dire que pour comprendre le système, on ne peut pas se contenter d'une description de la fonction d'onde, disons de l'état fondamental, en termes de produits de fonction d'onde indépendante. On peut imaginer que l'interaction de Coulomb ne produise qu'un effet purement électrostatique sur la charge totale et finalement soit bien décrit dans une approximation de type Hartree. C'est le phénomène du blocage de Coulomb, qui est que simplement, quand on veut rajouter une charge à un système dans lequel l'interaction de Coulomb est importante, il faut payer un certain poids énergétique. Ici, on voit une caricature d'électrons qui cherchent à sauter d'un site sur l'autre et qui sont bloqués par cette interaction de Coulomb. Il est bien clair que les effets dont on va principalement s'occuper au cours de cette série de cours seront des effets qui vont au-delà de ce pur effet électrostatique, qui induisent des corrélations entre le mouvement des électrons, pas seulement par un effet énergétique total, mais il faut bien commencer par décrire l'effet majeur, qui est l'effet, je dirais, électrostatique de blocage de la charge par l'interaction répulsive. Ce phénomène va dominer tous les problèmes dont je vais parler dans cette série de cours. Pendant les 2 cours d'aujourd'hui et de la prochaine fois, je vais vous parler de blocage de la charge à travers une petite structure. Dans le cas des atomes froids bosoniques dans un réseau optique, il ne s'agit pas de l'interaction, disons, de Coulomb eucaris sur R des électrons dans un solide, mais il s'agit également d'une interaction qui peut être répulsive. Et puis, dans le cas des oxydes, il s'agit bien de l'interaction de Coulomb écrantée. Voilà. Donc, je vais commencer ces 2 cours par vous parler de petits systèmes. On pourrait appeler ça la physique des électrons corrélés dans une coquille de noix. Et donc, j'ai trouvé une petite citation de Shakespeare là, pour illustrer ce point de vue, qui m'a amusé parce qu'elle fait référence d'une part à la coquille de noix, mais également à l'espace infini. Et vous verrez que le couplage d'un petit système à un grand système qui va jouer le rôle de l'espace infini, c'est précisément tout le problème qu'on va discuter maintenant. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui est plutôt un cours de théoricien. On va voir peu de résultats expérimentaux. C'est le cours suivant, le cours numéro 2, qui sera plutôt consacré aux illustrations physiques et aux problèmes physiques qui ont motivé les considérations théoriques dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai séparé les choses comme ça, un peu arbitrairement. J'ai pensé que c'était plus clair, finalement, de commencer avec quelque chose de très simple et d'idéalisé, et puis ensuite de vous montrer les développements expérimentaux. Donc, on va commencer le cours d'aujourd'hui avec l'étude d'un modèle. qui est un modèle très simple à formuler, qui, à mon avis, est un modèle très intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, il a de nombreuses applications physiques, que je vais brièvement mentionner, sur lesquelles je reviendrai la prochaine fois. D'autre part, ce modèle a été un laboratoire extraordinaire pour le développement de toutes sortes de méthodes de la physique théorique des systèmes corrélés et de la physique théorique en général. Dans le domaine de la physique de la matière condensée, c'est à propos de ce modèle et de ses cousins qu'ont été introduites les idées du groupe de renormalisation en physique de la matière condensée. Plus, en fait, que pour les transitions de phase du point de vue historique. Donc, c'est véritablement un modèle extrêmement fécond et il a eu son heure de gloire dans les années, je dirais, 60 à la fin des années 70, lors des grands travaux sur les fécondos, mais il n'y a eu de cesse que de renouveler l'intérêt pour ce modèle dans les années 90 avec les approches de type théorie conforme de ces problèmes condos dont je n'aurai pas le temps de parler dans ce cours, mais qui pourraient faire l'objet d'un cours dans une année ultérieure, et puis également dans d'autres contextes dont je vais vous parler. Donc, quel est ce modèle ? Ce modèle est celui d'un atome. Alors, c'est l'atome du théoricien, hein, c'est-à-dire c'est l'atome avec un seul niveau atomique, donc qui s'appelle ici epsilon d. Et cet atome peut donc, puisqu'il y a un seul niveau atomique, sans dégénérescence orbitale, peut donc être dans quatre états quantiques possibles. Soit il n'y a pas d'électron, soit il y a un électron, dont le spin peut être vers le haut ou vers le bas, soit il y a deux électrons. Et lorsqu'il y a deux électrons, il faut payer un poids qui est l'interaction de Coulomb, un certain élément de matrice de l'interaction de Coulomb répulsive U. Donc l'Hamiltonien atomique est très simple, c'est un espace de Hilbert à quatre états, avec quatre niveaux, 0, epsilon d, 2 epsilon d plus U. Alors cet atome du théoricien est couplé à un bain qui est ici pris comme simplement des électrons de conduction sans interaction. Donc des électrons libres avec une certaine bande d'énergie, peu importe, la forme détaillée de cette dispersion des électrons de conduction ne va pas jouer un rôle crucial dans la suite. Et le couplage entre ces deux systèmes, qui pour l'instant sont complètement découplés, se fait par un terme qu'on appelle un terme d'hybridation. Je pense que le terme est assez correct même pour les chimistes. Il s'agit d'un terme qui va provenir, par exemple, du recouvrement d'orbitales entre les orbitales de cet atome et les orbitales ou les fonctions de Vanier de ces électrons de conduction. Et dans cette modélisation, ce terme d'hybridation est simplement choisi comme une sorte de terme tunnel qui permet le passage d'un électron du système atomique vers le bain et réciproquement avec une certaine amplitude V qui est la dimension d'une énergie. Voilà, alors ce modèle s'appelle le modèle d'Anderson à une impureté. En fait, on devrait l'appeler le modèle d'Anderson, Wolf et peut-être Friedel, pour les raisons que vous allez comprendre tout de suite. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il avait de nombreuses applications physiques et je vais essayer de vous donner un aperçu de ces applications physiques, sachant que je reviendrai en détail au cours 2 sur les expériences liées à certaines de ces applications. Alors historiquement, ce modèle a été introduit pour décrire la physique des impuretés magnétiques dans les métaux. Donc on considère un métal et on a toujours, en fait, évidemment, un certain nombre d'impuretés. Certaines peuvent être magnétiques. Si vous achetez du cuivre sur le web, vous aurez un peu de fer dedans. Ça a d'ailleurs été l'objet de discussions assez effrénées, relativement récemment, en particulier dans le groupe de Cointronic à Saclay, où les effets de diffusion inélastique dus à ces impuretés ont été étudiés en très grand détail très récemment. Donc, on a des impuretés magnétiques. Alors, ces impuretés magnétiques, en pratique, vont être en général soit des métaux de transition 3D, comme le manganèse, le chrome, le fer, dans de l'or, du cuivre, de l'aluminium, un métal non magnétique, soit même des terres rares. Donc, je vous rappelle, voilà la classification périodique, que vous la reverrez plusieurs fois au cours de ce cours, je pense. Donc, vous voyez ici la ligne des métaux de transition 3D, 4D, 5D, dont on parlera plusieurs fois dans la suite de ce cours. Ces métaux de transition ont des orbitales D qui, au moins pour les orbitales 3D, sont relativement localisées autour du noyau pour des raisons de mécanique quantique assez simples à comprendre. Et donc, on peut considérer en première approximation ceci comme un niveau atomique qui est placé, donc quand on met quelques impuretés de fer dans le cuivre, qui est placé dans cette matrice d'électrons de conduction. Le cas des orbitales 4F, donc voilà les terres rares ici avec leurs orbitales 4F et les actinides avec leurs orbitales 5F. Le cas des orbitales 4F est encore plus concentré, les orbitales 4F sont encore plus localisées et donnent donc lieu à des moments magnétiques lorsqu'on a des couches incomplètes. On a donc un problème dans lequel il y a des moments magnétiques en faible concentration qui sont dans une matrice d'électrons de conduction. Alors, ces idées-là remontent aux travaux de Friedel vers la fin des années 50, qui avait introduit la notion d'étalier virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un potentiel, qui est le potentiel périodique de la matrice d'électrons de conduction, et puis au site d'impureté, on va avoir un potentiel assez profond, de manière à avoir des niveaux atomiques assez localisés. Et ces électrons de conduction et ce potentiel profond d'impureté sont séparés par une barrière qui est liée au moment cinétique, qui va donc avoir L égale 2 pour un métal de transition 3D, L égale 3 pour une terre rare. Et donc vous voyez qu'ici, on va avoir un premier effet qui est l'élargissement des niveaux atomiques qui ne sont pas trop trop loin du niveau de Fermi de ces électrons de conduction par hybridation à travers cette barrière centrifuge, de sorte que, et c'est un concept évidemment très familier aux physiciens atomiques, ce niveau atomique va être élargi avec une certaine largeur de ray, gamma, qui va bien sûr être le carré de l'élément de matrice de transition fois la densité d'électrons de conduction dans le bain d'électrons de conduction. C'est la règle d'or de Fermi. On va en reparler par la suite. Donc ça remonte, comme je le disais, à des travaux de Jacques Friedel, qui a vraiment été un des pionniers de ce domaine des impuretés magnétiques dans les métaux. Et pourquoi, au milieu des années 50, les gens s'intéressaient-ils à la physique des impuretés magnétiques dans les métaux? Eh bien, c'est en raison d'une observation expérimentale, en fait très ancienne, qui remonte, elle, au milieu des années 30, mais qui était toujours inexpliquée au milieu des années 50, qui est que la résistivité de certains métaux présente un minimum lorsqu'on refroidit le système pour finalement remonter à basse température. Et voilà une courbe qui est essentiellement, je pense, la courbe historique, ou peu d'années après en tout cas. Cette observation ayant été faite dès 1934, voilà l'abstract de cet article. La résistivité des fils d'or mesurés a un minimum lorsqu'ils ne sont pas très purs. Voilà, c'est un abstract très simple qui met bien en évidence le phénomène. Et j'en profite pour signaler une chose que j'ignorais moi-même, qui est qu'en fait cet article est co-signé par Debourg, qui est aussi le co-signataire du fameux article qui introduit le mystère des isolants de Mott à peu près dans les mêmes années, un petit peu plus tard. Voilà. Donc, vraiment, au laboratoire Philips, à l'époque, on faisait des choses très intéressantes. Donc, vous voyez, ce minimum de résistivité, et bien entendu, ça, c'est très surprenant, puisqu'en général, dans un métal, enfin, c'était très surprenant à l'époque, puisqu'en général, dans un métal, ce qui se passe, c'est que les impuretés dominent le transport à très basse température lorsque tous les processus inélastiques sont bloqués, et puis quand on chauffe, la résistivité augmente parce qu'on introduit de scattering inélastique, par exemple sur les phonons du système ou dans les systèmes corrélés du scattering électron-électron. Alors là, ce n'est pas ce qui se passe, il y a un minimum et il s'agit d'expliquer ce minimum. C'est le fameux problème Kondo ou effet Kondo, sachant qu'en fait, l'effet n'est pas dû à Kondo, mais il est dû à ces gens-là. Ce qui est dû à Kondo, c'est le premier calcul théorique après les idées de Friedel et d'autres, qui montre que, effectivement, un Hamiltonien aussi simple que celui que j'ai introduit tout à l'heure suffit à rendre compte de ce phénomène. Alors, c'était une première motivation qui date plutôt donc des années 60. En voilà une beaucoup plus récente, qui est le problème d'un point quantique dans une petite structure de dimension, disons, quelques dizaines de nanomètres. Et donc, vous savez, je pense qu'on peut fabriquer des gaz d'électrons très bidimensionnels dans des transistors à effet de champ, et on peut sculpter ces gaz d'électrons bidimensionnels en déposant des grilles métalliques, qui vont donc introduire des potentiels électrostatiques contrôlables, de manière, par exemple, à pouvoir dessiner dans mon gaz d'électrons bidimensionnel une structure de ce type, où on va avoir un grand réservoir à gauche, un grand réservoir à droite, et puis une petite goutte électronique au milieu, avec des paramètres qui sont relativement contrôlables, dans la mesure où, en appliquant des tensions de grille appropriées, on peut contrôler le potentiel électrostatique de cette goutte par rapport à celui des réservoirs. Ça va être le niveau epsilon d de mon modèle, hein, c'est le potentiel global de cette goutte. On peut également contrôler la transparence ou la barrière tunnel liée à ces deux constrictions. Donc on peut contrôler le passage du réservoir vers la goutte et de la goutte vers le réservoir de droite. Et puis on peut évidemment, bien sûr, introduire encore une autre tension qui va être une tension drain-source de manière à provoquer le passage d'un courant à travers ce système en transmission, par exemple. Bien, alors cette motivation, évidemment, est née à partir du moment où on a pu construire de tels dispositifs, de tels points quantiques, et il est bien évident que la modélisation que j'ai introduite est une modélisation extraordinairement simplifiée. Dans ce cas-là, il faudrait évidemment introduire deux réservoirs d'électrons de conduction, un à gauche et un à droite, mais ça, c'est une complication qui n'a pas beaucoup de conséquences. Mais l'approximation importante qui est faite ici, c'est évidemment qu'on peut se contenter de considérer un niveau isolé sur le point quantique, et ça, c'est quelque chose qui va être raisonnable lorsque la densité d'électronique sur ce point est relativement faible et les dimensions sont suffisamment petites pour que l'espacement de niveau soit grand. Donc c'est quelque chose qui va être vrai, tout au moins quand on regarde une seule marche d'escalier de Coulomb, c'est quelque chose qui va être vrai lorsqu'on considère des points quantiques dans ces gaz d'électrons bidimensionnels dans les MOSFET, c'est quelque chose qui va être très faux lorsqu'on considère une petite île métallique, comme celle qu'étudie le groupe de Quantronic du CEA, où là, on a un continuum de niveaux sur le point. Ils sont d'une part plus gros, et d'autre part, surtout, ils ont une densité électronique beaucoup plus grande. Bien, alors, je ne vais pas élaborer plus sur cette physique des points quantiques. J'en parlerai beaucoup plus au cours 2, et vous verrez en particulier que les phénomènes subtils qui provoquent l'effet Kondo, la remontée de résistivité à basse température dans les problèmes d'impureté magnétique dans les métaux, sont ici aussi, dans le contexte des points quantiques, responsables d'un phénomène spectaculaire et qui est a priori, tout au moins d'un point de vue intuitif, complètement contradictoire avec le phénomène précédent, puisqu'au contraire, ce que ces phénomènes à N-core provoquent dans les points quantiques, c'est une restauration de la transmission complète à travers le point, c'est-à-dire une suppression du blocage de Coulomb. Donc une remontée de la conductance, et non pas une remontée de la résistance. Alors, pourquoi, dans le contexte des impuretés magnétiques, a-t-on une remontée de la résistance ou de la résistivité, et dans le contexte des points quantiques, une remontée de la conductance? Ça, c'est quelque chose que vous découvrirez au cours d'eux, mais dont on aura déjà une petite idée aujourd'hui. Alors, il y a encore d'autres motivations pour ce modèle. Il y a une motivation qui est assez oubliée, je dois dire, et que j'ai moi-même, j'en avais une vague idée, mais je l'ai redécouverte en préparant ce cours, qui est le problème de la diffusion d'atomes par une surface métallique. Alors, ce sont des expériences assez anciennes où on envoie des atomes sur une surface, elle rebondit, l'atome peut rebondir, il peut coller aussi, mais imaginons qu'il rebondisse sur la surface. En première approximation, on va décrire la trajectoire de cet atome de manière classique. Lorsqu'il est très loin, il n'interagit pas avec la surface. Lorsqu'il est très proche, il va se mettre à interagir avec la surface. Et donc, vous voyez que dans ce problème, en première approximation, on peut considérer que le niveau atomique de cet atome, εd, va dépendre du temps, selon une loi connue donnée par la trajectoire de l'atome. Et l'élément de matrice d'hybridation entre la surface métallique et la d'atome va également dépendre du temps. Et donc le problème, par exemple, c'est de comprendre, sachant que l'atome est dans un certain état au départ, quelle est la probabilité qu'il se retrouve à l'arrivée dans un certain état d'ionisation en ayant échangé des électrons avec la surface métallique. Alors ça peut être décrit, encore une fois, de manière très rudimentaire, par ce modèle d'Anderson à une impureté, mais dans un régime hors d'équilibre. En fait, c'est probablement la première fois, historiquement, que les gens se sont intéressés à ce modèle d'Anderson hors d'équilibre vers, je dirais, le tout début des années 80, fin des années 70, avec des méthodes qui, il faut bien le dire, à l'époque, étaient quand même très rudimentaires. Et ce domaine a été un peu oublié. Peut-être serait-il intéressant de le reconsidérer avec des méthodes modernes, et c'est un sujet de recherche très actif, de la physique des systèmes quantiques hors d'équilibre. Voilà, je ne vous en dis pas beaucoup plus sur ce problème parce que je suis moi-même assez ignorant. Il y a une revue assez ancienne de Bracco et Nunes sur ce sujet. Et puis, c'est difficile pour moi de résister à la tentation de citer une dernière motivation qui a été quand même importante et est toujours importante dans le renouveau de l'étude de ces modèles quantiques d'impureté au cours, disons, des 20 dernières années. C'est le fait que ces modèles quantiques à une impureté servent de briques de base à la construction de théories de champs moyens, mais des théories de champs moyens sophistiquées qui retiennent quand même les fluctuations quantiques, donc ce sont des demi-théories de champs moyens, des systèmes étendus, donc des systèmes sur réseau, des solides. Et l'idée générale, j'en parlerai un petit peu au cours 6, je pense, l'idée générale est de remplacer un solide cristallin, donc invariant par translation, par un atome dans un milieu effectif. Donc vous voyez ici, au moins de manière un peu caricaturale sur ce transparent, l'idée d'un système isolé couplé à un bain, comme dans le modèle d'Anderson à une impureté, mais cette fois ce bain est un bain autocohérent, qui n'est pas connu au départ, ce n'est pas une matrice métallique fixée par la nature, c'est quelque chose d'autocohérent qui vient du fait que ce modèle d'impureté sert uniquement de brique de base pour construire cette théorie de champ moyen. Voilà, donc ceci clôt les motivations et je pense constitue une motivation suffisante pour vous convaincre du fait que l'étude de ces modèles quantiques à une impureté est finalement un bon sujet pour démarrer un cours sur les fortes corrélations quantiques. Donc encore une fois, le cours d'aujourd'hui, plutôt des outils théoriques, le cours suivant, plutôt des applications. Alors, j'ai prévenu que ce n'était pas un cours pour les experts, donc les experts vont être déçus, on va commencer avec des choses très simples. Commençons par regarder le cas de l'atome isolé. Donc, c'est presque un peu honteux de faire un cours au Collège de France sur ce problème, puisqu'il s'agit d'un espace de Hilbert de dimension 4, qui en plus, avec un Hamiltonien, qui en plus a le mérite d'être déjà diagonal quand on vous le présente au tableau. Donc vraiment, le problème est très simple, on ne va pas y passer plus de 2 minutes. Donc voilà le problème, on a mon atome du théoricien isolé, et on a donc 4 états quantiques, comme je le disais tout à l'heure, dont voici les niveaux d'énergie. Alors vous observerez que ces niveaux d'énergie présentent, si je regarde le fondamental de ce système, eh bien, il y a des croisements de niveaux. Lorsque cet état de charge 0 devient dégénéré avec cet état de charge 1, ceci va se produire quand εd vaut 0, manifestement, ou bien lorsque cet état de charge 1 va se trouver dégénéré avec l'état de charge 2, et ceci va se produire quand εd égale moins u. Le niveau est très profond, on a envie de l'occuper par 2 électrons. Donc si je regarde la charge totale, alors là ici j'ai représenté l'occupation par spin en fonction d'εd, donc si vous vous intéressez au point quantique, pensez à charge sur l'île en fonction de la tension de grille qui règle le potentiel électrostatique du point, en fonction d'εd donc, la charge va varier à température nulle sous la forme d'un escalier vertical avec un plateau de charge 2, à εd égale moins u, on entre dans un plateau de charge 1, à εd égale 0, lorsque le niveau est élevé, on le vide et on a un plateau de charge 0. Alors ceci, c'est l'escalier de Coulomb, familier aux gens de la physique mésoscopique, c'est la description la plus simple, la plus rudimentaire du blocage de Coulomb, l'effet purement électrostatique dont je parlais tout à l'heure, et on peut également, bien sûr, faire le calcul à température finie, c'est très simple, et ce qui se passe simplement, c'est que cet escalier de Coulomb est élargi par un élargissement d'ordre kT, comme vous pouviez vous y attendre. Alors on peut aller un petit peu plus loin, et ça me permet d'introduire des objets qui vont me servir beaucoup dans la suite. On peut regarder la spectroscopie de cet atome. Alors pour ça, il est commode d'introduire une quantité qui va me servir très très fréquemment dans la suite de ces cours, et pas seulement cette année, et qui d'ailleurs nous sert dans notre recherche au quotidien, qui est ce qu'on appelle la fonction spectrale à un électron, et qui, à température nulle, est une chose très simple, et qui a différentes interprétations sur lesquelles je reviendrai dans le cours 4. On prend le fondamental du système, le vrai fondamental à n corps, on ajoute un électron dans ce fondamental, et on regarde quel est le recouvrement de cette nouvelle fonction d'onde, qui en général n'est pas un état propre du système, dans le cas de l'atome isolé, il l'est, mais c'est une exception, avec tous les états du système à n plus une particule. Et puis on regarde ce recouvrement de fonction d'onde résolu en énergie. Voilà. Donc ça, c'est la fonction spectrale d'addition. On peut regarder également la fonction spectrale de soustraction, qui par convention sera la fonction spectrale avec des fréquences négatives. Et on peut facilement généraliser cette définition à température finie. Alors si vous faites le calcul dans le cas de cet atome isolé, vous trouvez bien sûr que si je suis au milieu de cet escalier de Coulomb, dans ce plateau de charge 1, je peux soit ajouter un électron, et ça va me donner un pic à cette énergie de transition epsilon d plus u dans ma fonction spectrale, ou enlever un électron, et ça va me donner un pic à l'énergie epsilon d. Alors, je voudrais insister sur le fait que vous voyez ici que la nature de l'état fondamental est très différente dans ces trois régimes. Ici, il est non dégénéré. Ici, il est non dégénéré. Mais ici, dans ce plateau de charge 1, il y a une dégénérescence. Une dégénérescence de spin. L'état fondamental peut être soit spin vers le haut, soit spin vers le bas. Et bien entendu, c'est ce régime-là qui va donner lieu à de la physique intéressante lorsqu'on branche le couplage avec le bain. Alors ça, c'est une chose qui est assez générale en physique, qui est que souvent, en physique de la matière condensée en particulier, c'est les systèmes qui ont une dégénérescence dans une certaine limite qui donnent de la physique intéressante, puisque la question se pose de savoir comment cette dégénérescence est levée par une perturbation. On pourrait donner de multiples exemples, effet Hall quantique compris. Donc vous voyez que la problématique ici, ça va être, si je suis dans ce régime de moment local, comment le couplage au bain lève cette dégénérescence. Ceci nous amène à la question suivante. Est-ce que cette limite de l'atome isolé est singulière? Si je considère un environnement métallique de mes électrons de conduction, je branche maintenant un petit couplage au bain, un petit V, est-ce que cette limite est singulière? Alors en fait, il est possible de répondre à cette question par un calcul très simple, et ce n'est pas du tout l'ordre historique que je vous présente ici. Je pense que si ce calcul avait été fait au milieu des années 60, ça aurait court-circuité beaucoup de débats sur ce problème. Mais ces choses ne se sont pas passées comme ça historiquement, vous comprendrez pourquoi dans la suite. Donc, considérons le cas très simple où j'ai maintenant mon atome couplé à un environnement, mais caricaturons cet environnement par une seule orbitale d'électrons de conduction. Donc maintenant, j'ai un niveau atomique et un seul niveau d'électrons de conduction, donc ce n'est pas un continuum. Ça ne va pas suffire à comprendre le problème de départ, mais quand même, ça va nous permettre de comprendre quelque chose de très, très important. Et évidemment, on peut résoudre ce problème. L'espace de Hilbert est maintenant de dimension 16. Il se sépare en blocs en fonction des différents nombres quantiques. Et je voudrais en particulier attirer votre attention sur ce secteur particulier où il y a deux électrons au total et qui peut être dans un état de spin total nul ou de spin total 1, sachant que le nombre de particules totales et le spin total sont des bons nombres quantiques pour ce problème. Alors, si vous entrez un peu plus dans les détails et que vous diagonalisez ce secteur, l'analyse est faite ici, vous vous apercevrez que le secteur triplet est complètement insensible à la perturbation, évidemment, puisque vous ne pouvez pas sauter sur l'île, puisque c'est interdit par le principe de Pauli. Donc, l'état fondamental reste, c'est pas l'état fondamental, mais l'état triplet reste à son énergie de départ, qui était epsilon d. En revanche, dans le secteur singulier, quelque chose de beaucoup plus intéressant se passe, puisque vous pouvez avoir une transition virtuelle avec un état intermédiaire doublement occupé sur l'île. Vous pouvez partir de l'état où il y a un électron sur l'île et un électron dans le bain, et avoir un état intermédiaire qui est d'énergie élevée, d'énergie U, mais qui est autorisé par le principe de Pauli. Alors ça, évidemment, selon les bons principes de la théorie de perturbation en mécanique quantique, ça abaisse l'énergie du fondamental d'une quantité qui est le carré de l'élément de matrice de la perturbation divisé par le dénominateur d'énergie. Donc la conclusion, c'est que la levée, le couplage au bain, même avec une seule orbitale d'électrons de conduction, suffit à lever la dégénérescence du fondamental au profit d'un état singulier dont l'énergie est abaissée par cette quantité V carré sur U. Autrement dit, si je considère le secteur de basse énergie de ce problème, je peux tout simplement considérer un Hamiltonien de spin effectif qui fait uniquement intervenir le spin sur l'île et le spin des électrons de conduction. Je suis, si je considère cet Hamiltonien effectif, contraint d'ignorer les fluctuations de charge. Elles se passent à haute énergie. Donc je retiens seulement un sous-secteur de l'espace de Hilbert où la charge est fixée à 1 sur l'île. Mais cet Hamiltonien, dans ce cas-là, est extrêmement simple. C'est simplement un Hamiltonien d'échange, spin-spin, avec une interaction qui est le fameux couplage Kondo dans ce contexte, qui est d'ordre V carré sur U. lorsque U est grand. Bon, alors, pour entrer un petit peu plus dans les détails, si vous regardez toujours la mécanique quantique extrêmement élémentaire, si vous regardez l'état fondamental maintenant, vous voyez que cet état fondamental est un mélange entre notre état singulier de départ qui a un électron sur l'île et un électron dans le bain, dans un état singulier, et puis l'état doublement occupé, hein, avec une double occupation sur le point. Alors il est bien évident que l'élément de matrice qui est là est petit. L'hybridation, le poids statistique de l'état doublement occupé dans l'état fondamental est très faible, mais il existe. Et de même, il y a également un poids statistique faible de l'état sans électrons sur le point. Ce poids statistique est faible, mais il existe. Et donc, on va avoir introduit des fluctuations de charge dans l'état fondamental du système. Et ça, ça va être très important pour la conductance en transmission de mon point quantique, puisque le fait qu'on a introduit dans la fonction d'onde du fondamental des fluctuations de charge devrait nous permettre de restaurer la transmission à travers le point quantique. C'est ce qu'on verra au cours 2. Donc revenons à l'hamiltonien effectif. C'est un hamiltonien d'échange, spin-spin. Si je regarde le secteur de basse énergie de l'espace de Hilbert sans fluctuation de charge, et cette transformation peut être généralisée au cas d'une bande complète d'électrons de conduction, donc d'un vrai réservoir, pas seulement d'un atome isolé. C'est ce qu'on appelle la transformation canonique de Schrieffer-Wolf. Je n'entre pas dans les détails, mais ce résultat est essentiellement inchangé. Ce qui se passe, c'est qu'on introduit un couplage d'échange qui est d'ordre V carré sur U, ou d'une manière plus générale, ce couplage-là. Et ceci nous amène au célèbre hamiltonien Kondo, qui est écrit ici, qui est l'interaction, donc là, qui est une description de basse énergie du problème de tout à l'heure, où j'ai mon bain d'électrons de conduction, une interaction entre le spin sur l'impureté magnétique ou sur l'île et le spin des électrons de conduction, et éventuellement, si je ne suis pas au point symétrique de l'escalier de Coulomb, dans son centre, j'ai une diffusion potentielle dont l'amplitude est donnée là et qui est zéro exactement au point symétrique. Bien, alors en réalité, dans les années 60, c'est de cet hamiltonien-là dont les gens étaient partis pour comprendre le problème, et c'est l'origine d'une bonne partie des difficultés de cette approche, pour la raison suivante. Lorsqu'on part de cet hamiltonien, l'attitude naturelle est de se livrer à des développements perturbatifs dans la constante de couplage, et la seule constante de couplage du problème, c'est maintenant la constante sans dimension, qui est le produit de l'interaction d'échange par la densité d'électrons de conduction dans le bain. Donc, J Kondo fois rho. C'est la seule constante de couplage du problème. Dans le modèle d'Anderson de départ, on dispose d'autres perturbations. On va le voir plus tard, on peut faire des perturbations en nu, qui sont des perturbations beaucoup plus régulières. En revanche, ici, c'est la seule constante de couplage dont on dispose, et lorsqu'on cherche à faire un développement perturbatif dans cette constante de couplage, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, puisqu'on a vu que la limite J qui égale 0 était singulière, c'est la limite du point isolé. Eh bien, bien entendu, le fait que cette limite soit singulière provoque des catastrophes quand on cherche à développer autour, et c'est précisément ce qu'a fait Kondo dans son célèbre article du milieu des années 60, où il a montré que quand on développe en puissance de J carré la résistivité, la contribution des impuretés à la résistivité, eh bien, à l'ordre 2, tout se passe très bien, et les gens s'étaient arrêtés là avant Kondo, mais à l'ordre 3, quelque chose d'intéressant apparaît, il apparaît un terme logarithmique. Logarithmique dans la température, par exemple, ou D est la largeur de bande du système. Alors ça, c'est évidemment une catastrophe, puisque ça veut dire que si vous baissez trop la température, ou la fréquence, ou n'importe quel paramètre lié à l'énergie, eh bien le terme d'ordre 2 devient plus grand que le terme d'ordre 1, la théorie de perturbation explose. Donc cette théorie de perturbation est singulière, et c'est une des premières manifestations en théorie de la matière condensée de singularité logarithmique dans un développement perturbatif. C'est pour traiter ce problème de singularité logarithmique que les premières idées du groupe de renormalisation en physique de la matière condensée ont été inventées dans ce contexte. Alors avant qu'on en arrive là, vous voyez que si je compare simplement le terme d'ordre 2 au terme d'ordre 1, eh bien je vois qu'il apparaît une échelle d'énergie caractéristique qui est exponentiellement petite dans la constante de couplage, ça ressemble un peu à une formule BCS, hein, en dessous de laquelle la théorie de perturbation n'est plus valable, et c'est ce qu'on appelle la température de Kondo du problème. En fait, cette formule ici est un petit peu rudimentaire, on peut l'améliorer aux ordres suivants, vous le verrez par la suite. Ces singularités logarithmiques se manifestent dans le développement de toutes les quantités. Donc vous pouvez par exemple regarder la susceptibilité d'impureté, elle a un terme logarithmique, l'entropie d'impureté, elle a un terme logarithmique, et ces termes logarithmiques vont dans le sens d'une diminution de l'entropie d'impureté ou d'une diminution de la constante de Curie effective de la susceptibilité d'impureté, ce qui veut dire que, intuitivement, les électrons de conduction ont tendance à écranter le spin. C'est le premier signe de ce phénomène. Bon, je passe sur les détails techniques. Donc, comment aller au-delà? Pour aller au-delà de ce problème, eh bien, il faut inventer le groupe de normalisation. Donc, c'est un des triomphes de la physique théorique de ces années-là, d'avoir en grande partie à l'occasion des travaux théoriques sur ce problème, inventer l'idée du groupe de normalisation en physique de la matière condensée. Je vais en donner une vision naïve à la Wilson, disons, mais qui est en fait dans ce contexte, et dès le milieu des années 60, dû à Phil Anderson, qu'il a appelé le Poorman Scaling, et qui consiste à faire la chose suivante. Imaginons qu'au lieu d'intégrer sur les électrons de conduction dans nos calculs de perturbation, sur l'ensemble de l'échelle d'énergie disponible, on intègre sur une petite couche d'énergie qui contiennent seulement les électrons de conduction de haute énergie, ceux compris entre la largeur de bande et la largeur de bande moins une petite largeur de bande, delta D. Donc on réduit un petit peu la largeur de bande des électrons de conduction. Eh bien, il est facile de voir qu'on peut formuler ce problème, une fois qu'on a intégré sur cette petite couche, comme un changement de la constante de couplage du problème de départ. Donc on peut remettre le nouvel hamiltonien pour les électrons de conduction qui restent, sous la forme de départ, avec un changement des constantes de couplage. C'est un calcul qui est assez facile à faire, et qui, à l'ordre dominant, l'ordre le plus bas, donne le résultat suivant. Donc vous voyez que là, j'ai rien fait pour un modèle anisotrope, le changement de l'interaction d'Ising est proportionnel au carré de l'interaction spin-flip, ce qui est normal, puisqu'il faut flipper et revenir, et puis le changement de la constante de couplage dans le canal de spin-flip est proportionnel au produit des constantes de couplage. Alors on peut formuler ça sous la forme d'un flot de la constante de couplage ou de ces deux constantes de couplage dans le cas anisotrope en introduisant un paramètre d'échelle, L, qui va être associé à la largeur de bande du problème. Quand L égale 0, on a le problème de départ. Quand L devient grand, on a intégré sur beaucoup d'électrons de conduction. Et ces équations de flot qui résultent immédiatement de ça sont écrites ici. Et vous voyez qu'elle nous emmène en couplage fort si le problème était au départ dans un régime antiferromagnétique. Donc voilà le fameux diagramme de flot de cette constante de couplage dans le cas anisotrope, en fonction de Jz et Jperp. Lorsqu'on est dans ce régime, qu'on appelle le régime antiferromagnétique, ces trajectoires, au moins à l'ordre dominant, nous emmènent en couplage fort. Lorsqu'on est dans ce régime ferromagnétique, elles nous amènent dans le régime J perpendiculaire égale 0, qui est donc une perturbation irrelevante. Je pense qu'il est correct d'affirmer, mais il y a peut-être des meilleurs spécialistes de l'histoire des sciences dans cette salle qui me contrediront, que ce diagramme représenté ici est le premier exemple publié dans la littérature d'un flot du groupe de renormalisation en physique de la matière condensée, plusieurs années avant les idées sur le développement en epsilon dans les transitions de phase. Alors le malheur, c'est que dans ce contexte-là, le point fixe n'est pas contrôlable, puisque ce flot nous emmène en couplage fort. Et donc toute la question est de savoir quelle est la physique du point fixe auquel on va ultimement arriver. Va-t-on s'arrêter à un point fixe de couplage intermédiaire? On va voir au cours 2 que c'est une possibilité. Mais en fait, dans ce contexte de ce problème Kondo le plus simple, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le flot emmène véritablement jusqu'au point fixe de couplage infini. Et le point fixe de couplage infini, vous pouvez deviner sa physique tout simplement à partir de la solution du problème à un site d'électrons de conduction dont je parlais tout à l'heure. Ce qui va tout simplement se passer, c'est que le spin d'impureté va être écranté par un électron de conduction, de manière à former un état singulier. C'est ça la physique du couplage fort, et c'est ça la physique qui se produit quelle que soit la valeur de la constante de couplage de départ, puisque lorsque je renormalise le système pour regarder la physique de basse énergie, eh bien je suis emmené vers cette physique de couplage fort. Donc une caricature, si vous voulez, de la physique du point fixe de couplage fort, c'est la suivante. Ici, au départ, j'ai une impureté magnétique, un spin d'impureté, et puis des électrons de conduction, les deux s'ignorant, disons que la constante de couplage est très petite ou nulle. Et puis, lorsque je vais vers la physique du couplage fort, je veux former un état singulier. Donc voilà mon état singulier qui est content ici parce que le couplage antiferromagnétique est satisfait entre le spin d'impureté et le spin des électrons de conduction, mais les électrons de conduction doivent quand même s'accommoder de la présence de ce singulier ici, puisque ce site est maintenant bloqué. Pour amener un nouvel électron de conduction sur ce singulier, il faut casser ce singulier, puisque je vais me trouver avec trois électrons sur le site, on ne peut pas avoir un état singulier. Et donc vous voyez que les fonctions de bloc de ces électrons de conduction doivent maintenant éviter exactement ce site d'impureté, ce qui veut dire qu'on va avoir introduit un déphasage d'exactement pi sur 2 de l'onde bleue par rapport à l'onde rouge. Et donc ça, c'est le fameux déphasage de pi sur 2 du problème Kondo. Ça veut dire que finalement, la physique du point fixe de couplage fort, c'est la formation d'un état singulier, ça c'est vu du point de vue du site d'impureté, et d'autre part, pour les électrons de conduction, un spectre qui va ressembler à un spectre d'électrons libres, mais tout simplement décalé de pi sur 2, de manière à éviter le site d'impureté. Bien, alors revenons un petit peu au groupe de renormalisation. Il est bien évident que ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'était les équations à une boucle, les équations au premier ordre. On peut généraliser le concept à tous les ordres. On aura à ce moment-là une fonction bêta qui régit le flot de la constante de couplage. On peut intégrer cette équation de flot de manière à définir la constante de couplage dépendant de l'échelle, J de L, et ce J de L va nous emmener en couplage fort quand L devient grand. On peut établir une équation pour n'importe quelle quantité physique. Par exemple, la susceptibilité de départ va être invariante dans un changement d'échelle. D'un point de vue purement dimensionnel, elle doit donc s'exprimer comme 1 sur une énergie, qu'on peut prendre comme, par exemple, la largeur de bande dépendant de l'échelle, fois une fonction sans dimension du rapport T sur D de L et de la constante de couplage sans dimension. Ici, J, c'est rho J. Alors maintenant, je peux définir l'échelle Kondo. Je peux plus exactement associer à l'échelle Kondo une certaine échelle LK. Et je vois que, comme cette échelle est très faible, eh bien, cette équation me dit que la susceptibilité devient une fonction d'échelle universelle de T sur TK, ou plus exactement TK fois qui devient une fonction d'échelle universelle de T sur TK, qui est entièrement contrôlée par le point fixe de couplage fort. Donc toutes les quantités physiques sont des fonctions d'échelle universelles de T sur TK, ceci étant évidemment vrai lorsque T et TK sont tous les deux beaucoup plus petits que le cutoff de haute énergie, qui est la largeur de bande, mais le rapport T sur TK peut être quelconque, aussi bien petit que grand. Cette fonction d'échelle universelle peut être calculée exactement par la solution de ce problème dans le contexte de l'ansatz de Bethe. Il y a en fait un cas intégrable, et on peut calculer cette fonction d'échelle universelle, mais ça, c'est un peu une autre histoire. Alors, le calcul à l'ordre suivant permet de raffiner, par exemple, l'estimation de la température Kondo. On avait trouvé tout à l'heure D exponentielle moins 1 sur J. En réalité, c'est un peu plus petit que ça, comme vous voyez ici. J'insiste sur le fait que cette fonction d'échelle est universelle, la température Kondo elle-même ne l'est pas, de même que la fonction bêta ne l'est pas, etc., etc. Bien. Quelques mots rapidement sur l'analyse de voisinage de ce point fixe de couplage fort. Donc le point fixe de couplage fort lui-même, comme vous avez vu, est très simple. Ce qui va contrôler la physique de basse température du système, c'est bien évidemment le voisinage de ce point fixe de couplage fort. Alors ça, c'est une chose très belle qui a été introduite un peu plus tard, dans les années 80, par Philippe Nozière, qui est la description du voisinage de ce point fixe de couplage fort en termes de liquide de Fermi. Pourquoi ? L'idée physique de base est assez simple. C'est simplement le fait qu'on a bloqué ce cycle d'impureté et maintenant le reste des électrons de conduction doit s'accommoder de ce déphasage de pi sur 2. Mais après tout, il s'agit d'électrons de conduction qui vont avoir des interactions liées à ce site à l'origine et on devrait pouvoir décrire ce système dans le langage de la théorie des liquides de Fermi. Alors, dans un langage disons, plus moderne, qui est celui du groupe de renormalisation, ça veut dire qu'il va nous falloir considérer l'hamiltonien de point fixe et puis les premières perturbations autour de cet hamiltonien de point fixe. Alors, quand on fait cette analyse, donc j'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails ici, mais quand on fait cette analyse, on s'aperçoit qu'il y a en fait deux opérateurs qui sont de dimension la plus basse possible, qui sont deux opérateurs irrelevants, évidemment, puisqu'il s'agit d'un point fixe stable, et les opérateurs irrelevants dominants, il y en a deux. Il y a tout simplement le carré de la densité d'électrons de conduction, et puis il y a le carré de la densité de spin. Ce sont deux opérateurs dont les corrélateurs décroissent rapidement, et ce sont ces deux opérateurs qui vont fournir les corrections à la susceptibilité à basse température, par exemple, et ces corrections sont en T carré, à cause de la dimension de ces opérateurs au voisinage de ce point fixe. Donc, on peut passer du problème de départ, qui a été ici réécrit pour se passer simplement sur la demi-droite liée au fait qu'on a du scattering uniquement dans l'onde S, au problème qui décrit l'Hamiltonien point fixe, donc qui va être également un problème de fermion libre, mais avec un changement de condition de bord au départ, à l'origine, pour tenir compte de ce déphasage de pi sur 2, plus un opérateur, qui est cet opérateur carré de la densité de spin, qui va contrôler toute la physique de basse température et dont le coefficient est d'ordre 1 sur TK. Alors on peut comme ça, donc, en introduisant des perturbations au voisinage du point fixe de couplage fort, remonter au comportement de toutes les quantités. Vous voyez que ces quantités obéissent aux lois de ce qu'on décrira au cours 4 comme étant les lois d'un liquide de Fermi, c'est-à-dire par exemple des corrections T sur TK au carré à la susceptibilité, des corrections T sur TK à l'entropie d'impureté, etc. Et en particulier, des corrections en T sur TK au carré à la résistivité. Donc si je regarde la résistivité due aux impuretés magnétiques, vous voyez qu'elle est constituée d'un terme de température nulle qui correspond à un déphasage de pi sur 2, ce qui bloque le site d'impureté et donc introduit une résistivité magnétique la plus grande possible qu'une impureté peut introduire dans un gaz d'électrons, ce qu'on appelle la limite unitaire, qui veut dire que l'amplitude de scattering correspond exactement à un déphasage de pi sur 2, c'est la remontée de résistivité Kondo, et puis une correction qui est négative, puisqu'il s'agit d'un minimum de résistivité, avec une loi de ce type. Donc vous voyez que ceci corrige évidemment complètement la prédiction logarithmique, qui est valable à T plus grand que TK quand on descend en température, mais si on passe TK et qu'on descend à très basse température, on retrouve des lois de ce type. Bien, donc je vous avais prévenu que j'allais prendre un petit peu de retard, mais pas trop, je pense quand même. Ce que je voudrais faire maintenant, pour finir ce cours, c'est vous donner un point de vue différent en revenant au problème au modèle d'impureté d'Anderson de départ. Donc j'ai expliqué que dans le cas du problème Kondo, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était attaquer le problème du côté J égale 0, qui est une limite singulière. Dans le cas du problème d'Anderson de départ, qui inclut les fluctuations de charge, on peut attaquer le problème d'une autre manière. On peut l'attaquer du côté U égale 0, limite dont on n'a pas encore parlé. J'ai parlé de l'atome isolé, de l'atome couplé à un électron de conduction, mais je n'ai pas encore parlé de la limite U égale 0. Qu'est-ce qui se passe dans la limite U égale 0? Eh bien, c'est le modèle de l'état résonant de Friedel. On a tout simplement un atome couplé par effet tunnel à un bain. Alors, on peut très facilement résoudre ce problème. J'ai annoncé le résultat tout à l'heure. Il y a tout simplement une fonction d'hybridation qui paramétrise l'ensemble du problème. Cette fonction d'hybridation, c'est le carré de l'élément de matrice de transition fois, en gros, la densité d'état d'électrons de conduction dans le bain. Et cette fonction d'hybridation, que j'ai appelée ici gamma de epsilon, qu'à un facteur pi près, on appelle quelquefois aussi delta de epsilon, contrôle l'ensemble du problème. En effet, même si vous avez eu l'interaction sur le site d'impureté, vous pouvez toujours éliminer ces électrons de conduction pour reformuler du point de vue du site d'impureté tout le problème, simplement en termes de la position du niveau D et de cette fonction d'hybridation. Je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Voilà. Si j'intègre les électrons de conduction, je trouve pour l'orbital D une dynamique qui est constituée de l'interaction répulsive instantanée et d'un processus par lequel un électron peut quitter l'orbital D, passer dans le bain d'électrons de conduction, revenir sur l'orbital D à un temps ultérieur, comme c'est un processus retardé il faut forcément le décrire dans un formalisme lagrangien ou un formalisme d'action, mais disons c'est une complication technique. Et l'amplitude pour ça est entièrement dictée par, d'une part, la position du niveau D, d'autre part, la structure de cette fonction d'hybridation gamma de epsilon ou delta de epsilon qui contrôle l'ensemble du problème. Bien, donc, revenons au cas U égale 0. Quand U égale 0, on a tout simplement un élargissement du niveau D par cette largeur gamma, et ça, c'est l'état résonant, l'étalier virtuel de Friedel. Que se passe-t-il quand on ajoute U? Donc la question cruciale, c'est comment va-t-on passer de ce niveau centré à epsilon d élargi par gamma, ça c'est ce qui se passe quand U égale 0, à la limite atomique, quand cette fois gamma égale 0, et U est quelconque, où on a, disons dans le spectre d'addition ou de soustraction, deux transitions atomiques à une énergie bien déterminée qui consiste à ajouter un électron, enlever un électron sur le point. Comment passe-t-on d'une limite à l'autre? On a vu que si on essaye de comprendre ce passage en perturbant en V, on a des difficultés, tout est singulier et il faut résoudre le problème Kondo pour comprendre ce problème. Que se passe-t-il quand on part de l'autre limite, quand on perturbe en U? Bien, quand on perturbe en U, tout est parfaitement régulier. Et ça, c'est très facile à voir. Si je prends ce problème et que je commence à faire des perturbations en U, tout se passe très bien. Par exemple, le premier diagramme est celui-là. Donc, il fait intervenir trois lignes d'électrons de conduction. Il va donc y avoir un terme U carré. Cette amplitude de propagation d'un électron de conduction est quelque chose qui, dans un métal, décroît à long temps comme 1 sur le temps. Donc ici, je vais avoir 1 sur le temps au cube, ce qui veut dire que quand je reprends la transformée de Fourier, je vais introduire une self-énergie pour le niveau D qui va varier comme le carré de la fréquence. Donc vous voyez quelque chose, U carré fois le carré de la fréquence. Donc vous voyez quelque chose qui est régulier à basse fréquence, qui se passe parfaitement et qui est exactement le comportement attendu pour le temps de vie d'une quasi-particule dans un liquide de Fermi. Ce oméga 2 n'est autre que le T2 de tout à l'heure, mais qui ici s'obtient très simplement par un calcul perturbatif. Autrement dit, le comportement de la self-énergie qui mesure la différence entre la fonction de Green du niveau D en interaction et celle sans interaction obéit à un développement régulier à basse fréquence qui est caractéristique d'un liquide de Fermi et dans ce cas-là d'un liquide de Fermi très simple puisqu'il n'y a pas de degré de liberté spatiaux, il n'y a que des degrés de liberté temporels. La partie réelle est par exemple une constante plus un terme linéaire en oméga avec un coefficient ici sur lequel je vais revenir et puis la partie imaginaire est en oméga 2. Ça, c'est les comportements de température nulle. Alors si je regarde ce que ça veut dire pour la fonction spectrale que j'ai introduite tout à l'heure, ça veut dire tout simplement qu'à basse fréquence, cette fonction spectrale ressemble à celle d'un étalier virtuel mais avec des différences importantes qui sont que la position de cet étalier virtuel est maintenant modifiée techniquement par la partie réelle de cette self-énergie et par ce poids des quasi-particules Z. La largeur de cette résonance est également modifiée par Z et le poids spectral total de cette résonance est également modifié par ce poids des quasi-particules. En particulier, si vous vous concentrez sur le cas exactement symétrique qui était le centre de mon escalier de Coulomb, vous allez découvrir que la valeur à fréquence nulle de cette fonction spectrale est exactement inchangée par les interactions. Elle reste la même depuis l'étalier virtuel à U égale 0 jusqu'à très très grand couplage. Alors ça implique nécessairement qu'il doit se former, alors je vais écrire quelque chose au tableau. Vous voyez, dans la limite atomique, on a deux transitions atomiques de ce type. Et le spectre doit rester symétrique. J'ai montré ici que lorsque V était non nul, eh bien, la fonction spectrale devait nécessairement avoir ici du poids spectral. Et donc, vous pouvez tout de suite deviner ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ces transitions atomiques, ici, sont simplement élargies par le couplage avec le bain, selon la règle d'or de Fermi, avec une largeur gamma. Mais lorsqu'on va à basse température, il pousse ici une résonance qui doit s'accrocher ici, avec cette largeur Z, c'est ce qui est écrit au tableau ici, Z gamma, et un poids spectral total qui est très petit, qui ne contient qu'une fraction Z, qui va être beaucoup plus petite que 1 en couplage fort, du poids spectral total. Cette résonance est exactement la manifestation, dans le contexte de modèle d'Anderson, de l'effet Kondo qu'on a lu tout à l'heure à travers l'analyse de couplage fort. Donc pour résumer la situation, en couplage, lorsque U sur gamma est grand, ce qui va se passer, c'est que cette fonction spectrale va être un niveau atomique, une transition atomique, qui est la transition atomique naïve, centrée à epsilon d de largeur gamma, le spectre d'addition symétrique, et puis ici, à basse température, donc vous voyez quand on baisse T par rapport à TK, eh bien il va pousser dans son centre une résonance qui est liée à l'effet Kondo et qui vient du fait qu'on a une description de liquide de Fermi local du problème. Alors en fait, on peut montrer que ce poids spectral de cette résonance est très petit, le TK sur gamma, et donc il est exponentiellement petit. Ça, c'est la loi exponentielle de moins 1 sur ρj de tout à l'heure, retranscrite ici en termes de gamma et de U. Voilà, donc je pense que je vais, ceci conclut essentiellement ce cours, pour remettre un petit peu les choses en perspective. Donc on est parti de cet Hamiltonien très simple. On a compris que la limite atomique était une limite singulière qui nous obligeait à penser en termes d'Hamiltonien effectif de flot de la constante de couplage et d'effet Kondo. On a vu que la compréhension de l'effet Kondo avait nécessité l'invention du groupe de renormalisation, au moins ce qui concerne ses applications à la physique de la matière condensée. Et puis, vers la fin du cours, j'ai aussi montré qu'il y avait une manière différente de voir le problème qui partait de la limite de couplage faible en U et qui était beaucoup plus régulière, qui permettait d'interpoler entre l'étalier virtuel de Friedel et le régime Kondo en couplage fort. La fois prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on verra les conséquences de toutes ces idées sur le problème du transport à travers un point quantique, un petit peu les impuretés magnétiques dans les métaux. Je continuerai un petit peu la description du modèle d'Anderson également. Et donc, on va maintenant faire une petite pause jusqu'à... on a un bon quart d'heure de pause, disons. Le séminaire, comme je vous l'ai dit, sera donné par Olivier Parcollet, qui va nous décrire des méthodes numériques pour le traitement quantitatif de ces problèmes d'impureté quantique. Et si vous souhaitez des références sur ce problème, en voilà quelques-unes, sachant que la littérature est très vaste. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.